Chapitre 6. Septembre. Nous recommençons la vie que tu connais, au même lieu, dans la même maison, sans nous écarter des sillons marqués par de longues habitudes. Nous travaillons. Vandel est retourné à la géologie. Il ne sort plus sans son marteau, et partout où nous allons ensemble, il se met comme un cantonnier sur les routes à casser des cailloux. Je l'aide à porter ses échantillons. Il en a couvert le plancher de sa chambre. C'est là qu'il les dépose et les classe, sans avoir l'air de prévenir que tôt ou tard il nous faudra déménager. Il a rapporté de sa dernière course une foule de petits dessins fort curieux. Profil de montagne, forme de rocher, avec le multiple détail intérieur des stratifications. Rien n'est plus exact, ni plus net, ni plus minutieux. Chaque contour est indiqué d'une manière enfantine, par un trait si délié qu'on dirait le travail du burin le plus aigu. Il n'y a bien entendu ni ombre ni lumière. C'est l'architecture des choses reproduites indépendamment de l'air, de la couleur, de l'effet, en un mot, de tout ce qui représente la vie. C'est froid et démonstratif comme une figure de géométrie. Sans attacher d'ailleurs la moindre importance artistique à ses dessins, que lui-même appelle des plans, il s'étonne pourtant quelquefois, si j'hésite à reconnaître les lieux, de m'en voir contester l'exactitude absolue. J'accorde volontiers l'exactitude, mais je nie la ressemblance, ou bien encore la ressemblance admise, je nie la vérité, et c'est alors le point de départ d'une dissertation qui nous mène à travers des théories que tu devines, aux conclusions les plus opposées. Il faut pourtant, me disait-il aujourd'hui, que vous m'expliquiez au juste ce que vous prétendez faire de ce pays. Je vous entends dire, tantôt qu'il est curieux, tantôt qu'il est beau, vous parlez tour à tour de naïveté et de parti pris, vous invoquez l'indépendance et les traditions, vous avez toujours un pied ici, l'autre dans les musées, bref, je vous vois faire un grand écart très périlleux et je vous demande à vous-même si l'équilibre est possible à tenir. « Mon cher ami, lui dis-je, c'est une des faiblesses de notre époque, d'essayer ce que les plus forts n'avaient point entrepris, non par timidité, mais par sagesse, et de mettre beaucoup de résolution dans les chimères. Il fut un temps où les choses étaient moins compliquées, et les hommes plus grands, peut-être parce qu'ils étaient plus simples. » En tout cas, le but était direct, les moyens de l'atteindre étaient peu nombreux. On prétend que le but continue d'être le même. J'en doute. Avoir 1000 chemins ouverts et que chacun prend un détour nouveau pour y arriver. On ne pensait pas alors qu'il y eût autre chose au monde que ce que soi-même on voyait tous les jours. De belles formes humaines équivalentes à de belles idées ou de beaux paysages, c'est-à-dire des arbres, de l'eau, des terrains et du ciel. L'air, la terre et l'eau, trois éléments sur quatre, c'était déjà vaste, et cela suffisait. À chaque chose, on donnait à peu près sa couleur générale, et chaque forme était exprimée dans le sens le plus propre, non point à la corriger, mais à la manifester, en vertu de ce principe très modeste, cependant très fier, qui faisant équitablement deux parts dans les productions de l'art, donne à la nature l'initiative du beau, et nous réserve à nous le droit de le concevoir et de le révéler. On appelle embellir ou créer cette opération de l'esprit. Ce n'est qu'une demi-erreur et peut-être un abus de mots. Après ce préambule un peu solennel, engagé dans une exposition de principes que je n'avais ni provoqué ni préparé, je continuais, mon ami, raisonnant, divaguant, prenant les faits pour témoignage, invoquant l'exemple de ce que nous appelons les maîtres, et comme tu pourras le reconnaître, sans beaucoup d'ordre ni de méthode. Ce qui nous a perdus, disais-je au terme près, c'est la curiosité et le goût des anecdotes. Il y a déjà quelque temps qu'on le répète, et c'est vrai, mais irrémédiable. Autrefois, l'homme était tout. Une figure humaine valait un poème. Quand la nature apparaissait derrière l'homme, c'était à l'état d'auréole, et pour remplacer les fonds noirs des portraitistes, ou les nimbes d'or des primitifs italiens. La peinture et la sculpture se donnaient la main, à ce point que la peinture avait l'air d'être soutenue par sa sœur aînée. Toute pleine encore des traces de cette commune origine et de cette éducation commune, elle avait le sens individuel, le relief abstrait et positif de la statuaire. Et telle était, à la plus grande époque de la Renaissance italienne, la fraternité de ces deux arts jumeaux, que l'homme qui les a réunis et presque confondus dans ses œuvres, est demeuré par là le premier artiste du monde, moins parfait que les Grecs, et plus complet. Je ne crois pas que le jugement dernier soit autre chose qu'un immense bas-relief avec le mouvement et la couleur. Le jour où la séparation eut lieu, l'art diminua. Il se transforma le jour où le sujet s'introduisit dans la peinture, et il tomba tout à fait le jour à jamais déplorable où le sujet en devint l'intérêt. En d'autres termes, le genre a détruit la grande peinture et dénaturé le paysage même. Le sujet date de loin, et le genre aussi. Si l'on voulait sincèrement remonter aux origines, on manquerait peut-être de respect à des noms singulièrement vénérables, et que j'aurais peur de prononcer même entre nous. Nous avons toujours eu trop d'esprit en France. Cette disposition a porté malheur à nos grands hommes. On accorderait peut-être plus de génie à l'homme roi du XVIIIe siècle s'il avait été moins spirituel, et l'on remarque peu que le plus grand peintre français du XVIIe siècle avait lui-même autant de dextérité d'esprit que de bon sens. Le bon sens et l'esprit, la finesse et la logique, voilà les qualités gauloises dont les Italiens ne se doutaient pas ou qu'ils n'ont jamais laissé voir. C'est pourquoi Poussin est moderne. Il l'est malgré lui, malgré ses traditions, malgré son sens exquis de l'antique. Il a beau vivre et mourir à Rome, il reste au fond le Normand des Andelys, voisin de Corneille et parent de La Fontaine. Il a beau faire, il est grave, mais spirituel. Il est soucieux, mais il raisonne. Il a le trait, le pathétique et la leçon. Il est peu naïf, en somme, dans l'acception simple, forte, ingénument plastique que les anciens donnaient à ce mot. Le très grand art ne raisonne pas, du moins dans le sens du syllogisme. Il conçoit, il rêve, il voit, il sent, il exprime. Mécanisme simple et plus naïf. Qu'est-ce que le sujet, sinon l'anecdote introduite dans l'art, le fait au lieu de l'idée plastique, le récit quand il y a récit, la scène, l'exactitude du costume, la vraisemblance de l'effet, en un mot la vérité, soit historique, soit pittoresque. Tout se déduit et tout s'enchaîne. La logique apportée dans le sujet conduit tout droit à la couleur locale, c'est-à-dire à une impasse, car arrivé là, l'art n'a plus qu'à s'arrêter, il est fini. L'histoire religieuse, l'Ancien et le Nouveau Testament, par élévation de l'idée qui touchait à la foi, par le contact avec le fond des croyances, par leur éloignement légendaire, par le mystérieux des faits, s'élevait au-dessus de l'anecdote et rentrait dans l'épopée. Mais à quelle condition ? À la condition d'être le credo d'une âme émue, comme chez le moine de Fiesole, ou d'être coulé dans le moule d'une forme sublime, comme dans Léonard et Raphaël, André del Sarto, ces païens. Le sujet n'a jamais été pour eux qu'une occasion de représenter l'apothéose de l'homme dans tous ses attributs. Du moment que la mise en scène se fait plus explicative, de deux choses l'une, ou le sujet se transfigure comme entre les mains des coloristes dessinateurs vénitiens, et par l'absence de toute couleur vraie, par le mépris de l'histoire et de la chronologie, il sert de prétexte à une fantaisie épique, au fond de laquelle il passe inaperçu. Ou bien, l'intention de rester vrai prend le dessus et subitement l'art est rapetissé. À la façon dont les metteurs en scène vénitiens ont compris le sujet, Il est aisé de voir le cas médiocre qu'ils en faisaient. Quand le Titien peint l'ensevelissement du Christ, qu'y voit-il? Un contraste, idée plastique, un corps blanc, livide et mort, porté par des hommes sanguins et pleuré dans un deuil qui les rend plus belles par de grandes lombardes aux cheveux roux. Voilà comme on entendait le sujet. Vous voyez que la curiosité d'être vrai n'était pas grande, et que le désir d'être nouveau n'allait pas plus loin que celui d'être exact. Être beau, tel était le premier et le dernier mot, l'alpha et l'oméga, d'un catéchisme que nous ne connaissons plus guère aujourd'hui. Et tout à coup, il y a quelques 20 ans, après avoir épuisé l'histoire ancienne et puis l'histoire locale, de lassitude ou autrement, les peintres se sont mis en route. De cette époque date un mouvement très inattendu. Je veux parler du besoin des aventures et du goût des voyages. Or, notez bien qu'on voyage du moment qu'on s'attache aux diversités de la nature. La distance n'y fait rien. On peut ne jamais dépasser Saint-Denis et cependant rapporter des bords de la Seine des œuvres que j'appellerais des notes de voyage. On peut au contraire faire le tour du monde et ne produire que des œuvres plus générales, impossibles à localiser, ne portant ni timbre ni certificat de distance, et qui sont alors tout simplement des tableaux. En un mot, il y a deux hommes qu'il ne faut pas confondre. Il y a le voyageur qui peint, et puis il y a le peintre qui voyage. C'est toute une différence, comme vous voyez. Et le jour où je saurai positivement si je suis l'un ou l'autre, je vous dirai exactement ce que je prétends faire de ce pays. Nous étions en ce moment sur la place du marché. Une troupe d'enfants indigènes s'y livrait un exercice d'adresse et d'agilité dont nos collégiens ont l'habitude et qui, je crois, est cosmopolite, car on le trouve en Irlande aussi bien qu'en Orient. Le jeu consiste à lancer une boule ou un bâton ou n'importe quoi de léger qui puisse être enlevé rapidement et rejeté loin. Chaque joueur est armé d'un bâton et c'est à qui arrivera le premier pour relever la boule et la lancer de nouveau. Les joueurs étaient de jeunes enfants de 8 à 12 ans, agréables de visage et déliés de tournure comme la plupart des petits maures, avec la physionomie fine, les yeux grands et beaux, le teint aussi pur que celui des femmes. Ils avaient les bras nus, leurs coups délicats sortaient d'un gilet très ouvert, leurs culottes flottantes étaient relevées jusqu'au-dessus du genou pour les aider à mieux courir, et une petite chachia, rouge pareille à la calotte des enfants de cœur, garnissait à peine le sommet de leur jolie tête chauve. Chaque fois que la boule était atteinte et partait, tous ensemble s'élançaient à la poursuite côte à côte en troupeaux serrés comme des gazelles. Ils couraient en gesticulant beaucoup, perdant leur coiffure, perdant leur ceinture, mais n'y prenant pas garde, volant directement au but sans qu'on les vît toucher le sol, car on n'apercevait du pas léger des coureurs que des talons nus agités dans un flot de poussière, et ce nuage aérien semblait accélérer leur course et les porter. Il était 2 heures, le marché venait de finir, la place était entièrement déserte. Un carré de maisons basses et sans toiture, un ou deux cyprès qui pointaient au-dessus des terrasses, la montagne au-delà dont l'horizon dentelé partageait le ciel à plus de moitié, un ciel vide, un grand terrain sans accident, voilà pour le paysage. Les maisons étaient d'un blanc mat, à peine altéré par des écorchures, les cyprès noirs. La montagne était franchement verte, le ciel d'un bleu vif, le terrain couleur de poussière, c'est-à-dire à peu près lilas. Une seule ombre au milieu de la vive lumière se dessinait du côté de la place où déjà le soleil inclinait, et cette ombre, inondée des reflets du ciel, aurait pu grossièrement du moins s'exprimer elle-même par du bleu. Vous voyez bien, dis-je à mon auditeur, cette place et ses enfants. Place, elle est familière et dans les conditions du genre. Le cadre lui-même a ce double avantage de l'accompagner d'une manière très simple et cependant très locale. Prenons pour exemple ce tableau qui semble tout préparé d'avance et facile à copier comme à décrire. L'exemple en vaut un autre. L'Orient peut à la rigueur tenir dans ce cadre étroit. Et d'abord, si vous me permettez d'être pédant tout à mon aise, que voyons-nous? Sont-ce des enfants qui jouent dans le soleil? Est-ce une place au soleil dans laquelle jouent les enfants? La question n'est pas inutile, car elle détermine avant tout deux points de vue très différents. Dans le premier cas, c'est un tableau de figures où le paysage est considéré comme accessoire. Et dans le second, c'est un paysage où la figure humaine est subordonnée, mise au dernier plan, dans un rôle absolument sacrifié. À cette question, qui crée aussitôt tant d'opinions diverses, chacun répondra d'après son tempérament propre, sa manière de comprendre les choses, l'habitude de son œil et les dispositions de son talent. Le paysagiste y verra donc un paysage, le peintre de figure un sujet. L'un y distinguera des taches, l'autre des costumes, un troisième en étudiera les faits, un quatrième y verra des gestes, un autre encore des physionomies. Suivant qu'on les envisagera de près ou de loin, les enfants deviendront tout ou ne seront plus rien. Et si nous les supposons assez près du peintre pour que le portrait de chacun d'eux prenne un intérêt dominant, alors une modification singulière apparaîtra dans ce tableau si simple. Tout le paysage à la fois disparaîtra. À peine apercevra-t-on vaguement quelque chose comme un terrain frappé de lumière et des indications de mise en scène orientale. Il ne restera plus de visible, de formulé, qu'un groupe important, surtout par sa signification humaine, composé d'enfants animés de mouvements rapides et de passions joyeuses, et présenté de manière à mettre en évidence l'expression du geste chez les uns, le jeu de la physionomie chez les autres. Et d'élimination en élimination, nous arriverons de la sorte à réduire le cadre, puis à le supprimer, à grandir le groupe, puis à le simplifier. Le costume lui-même devient un accident secondaire dans un sujet dont l'intérêt se concentre à ce point sur des formes humaines et sur des visages. Et du premier coup, nous supprimons le soleil et l'excessive lumière, double obstacle dont personne au monde ne s'était préoccupé quand il s'agissait de peindre les hommes. Que devient alors le milieu même où nous apercevons la scène? Cette place blanche et si prévert, ce soleil blanc désormais méridienne? Que devient tout cet entourage local et significatif? Essentiel si l'on veut localiser la scène, mais inutile au contraire, si l'on veut la généraliser. On touche ainsi aux abstractions. Et, sans le vouloir, par le seul fait d'un point de vue plus sévère et plus concentrique, on sort de la nature pour entrer dans les combinaisons de l'atelier. On abandonne le vrai relatif pour un ordre de vérité plus large, moins précise, et d'autant plus absolue qu'elle est moins locale. Pour nous, cette petite place de Blida, solitaire, fortement éclairée par la pleine lumière d'un beau jour d'été, ses vestes rouges et ses culottes blanches, ses jolis enfants un peu bizarres, et c'est par là surtout qu'ils nous séduisent. La chaleur, le bruit, la diversité de la scène à chaque instant changeante, tout cela compose un ensemble d'impressions multiples et nous charme à ce titre surtout que nous y voyons l'individuel caractère d'un tableau d'Orient. Il y a au contraire des peintres, et j'en connais, qui ne prendraient là que le nécessaire, estimant que ce qu'il y a de plus intéressant dans ces enfants, ce n'est pas d'être de petits blidiens, c'est d'être des enfants. Cela, sans contredit, aurait raison. Ce procédé de l'esprit qui consiste à choisir son point de vue, à déterminer la scène, à l'isoler du milieu qui l'absorbe, à sacrifier les fonds, à les faire imaginer plutôt qu'à les montrer. Le soin d'expliquer ce qui doit être expliqué et de sous-entendre les accessoires. L'art d'indiquer les choses par des ellipses et de faire imaginer même ce que le spectateur ne voit pas. Ce grand art de se servir de la nature sans la stéréotyper, tantôt de la copier jusqu'à la servilité, tantôt de la négliger jusqu'à l'oubli. Ce difficile équilibre des vraisemblances qui oblige à demeurer vrai, sans être exact, à peindre et non pas à décrire, à donner non pas les illusions mais les impressions de la vie, tout cela se traduit par un mot ordinaire et qui fait le sujet de bien des équivoques, peut-être parce qu'il n'a jamais été bien défini, je veux dire l'interprétation. La question se réduit à savoir si l'Orient se prête à l'interprétation, dans quelle mesure il l'admet et si l'interpréter n'est pas la détruire. Je ne fais point de paradoxe, j'examine. Ce n'est pas une objection que je crée, je la signale. Mais croyez qu'il m'en coûte de médire d'un pays auquel je dois beaucoup. L'Orient est très particulier. Il a ce grand tort pour nous d'être inconnus et nouveaux, et d'éveiller d'abord un sentiment étranger à l'art, le plus dangereux de tous et que je voudrais proscrire. C'est celui de la curiosité. Il est exceptionnel, et l'histoire atteste que rien de beau ni de durable n'a été fait avec des exceptions. Et il échappe aux lois générales, les seules qui soient bonnes à suivre. Enfin, il s'adresse aux yeux, peu à l'esprit, et je ne le crois pas capable d'émouvoir. Je parle ici de ceux, et c'est le plus grand nombre, qui ne l'ont pas habité et n'ont pas, pour le comprendre, l'intime familiarité des habitudes et l'affectueuse émotion des souvenirs. Même quand il est très beau, il conserve je ne sais quoi d'entier, d'exagéré, de violent, qui le rend excessif. C'est un ordre de beauté qui ne rencontreront pas de précédent dans la littérature ancienne ni dans l'art, a pour premier effet de paraître bizarre. D'ailleurs, il s'impose avec tous ses traits, avec la nouveauté de ses aspects, la singularité de ses costumes, l'originalité de ses types, l'âpreté de ses effets, le rythme particulier de ses lignes, la gamme inusitée de ses couleurs. Changer quoi que ce soit dans cette physionomie si nettement nouvelle et décisive, c'est l'amoindrir. Apaiser ce qu'elle a de trop vif, c'est l'affadir. Généraliser une pareille effigie, c'est la défigurer. Il faut donc l'admettre en son entier. Et je défie qu'on échappe à cette nécessité d'être vrai quand même, d'en exprimer d'abord les côtés bizarres et d'être conduit par la logique même de la sincérité jusqu'à l'excès, formé du naturalisme et du fac-similé. Il en résulte dans chaque genre également une aberration pareille et certaine. Le peintre qui bravement prendra le parti de se montrer véridique à tout prix rapportera de ses voyages quelque chose de tellement inédit, de si difficile à déterminer que le dictionnaire artistique n'ayant pas de terme approprié à ses œuvres de caractère si imprévu, j'appellerai cet ordre de sujet des documents. J'entends par document le signalement d'un pays, ce qui le distingue, ce qui le rend lui-même, ce qui le fait revivre pour ceux qui le connaissent, ce qui le fait connaître à ceux qui l'ignorent. Je veux dire le type exact de ses habitants. Fût-il exagéré par le sang nègre, et n'eut-il pas d'autre intérêt que son extravagance, leurs costumes étrangers et étranges, leurs attitudes, leur maintien, leur costume, leur démarche, qui n'est pas la nôtre. Or, comme il n'y a plus, de limite aux investigations du voyageur lorsqu'il a pris pour règle l'exactitude, nous saurons et nous verrons à n'en plus douter, d'après ces images minutieuses copiées avec la scrupuleuse authenticité d'un portrait, comment le peuple d'outre-mer s'habille, comment il se coiffe, comment il se chausse. Nous apprendrons quelles sont ses armes, et le peintre les décrira autant qu'un pinceau peut l'écrire. Les harnais des montures, il faudra de même qu'on les connaisse. Il y a plus, il faudra qu'on les comprenne. Car à l'artifice ingénieux de montrer tant de choses nouvelles, se joindra pour le peintre voyageur l'obligation d'être catégorique et d'expliquer. Et comme l'attrait de l'inédit correspond à ce malheureux instinct universel de la curiosité, beaucoup de gens se méprennent eux-mêmes, demanderont alors à la peinture ce que donne exclusivement un récit de voyage. Ils voudront des tableaux composés comme un inventaire, et le goût de l'ethnographie finira par se confondre avec le sentiment du beau. En paysage, il se produira des effets semblables, moins évidents peut-être, non moins réels. L'intérêt des lieux éloignés est immense. Il y a un plaisir irrésistible à dire d'un pays que peu de gens ont visité, « Je l'ai vu ». Vous savez cela, vous qui passez votre vie à découvrir. Il faut être très modeste d'abord, et c'est déjà une vertu humaine assez rare, pour dissimuler ses titres de voyageur et ne pas afficher le nom des lieux à côté de celui du peintre. Il faut être plus modeste encore, et cette modestie-là devient un principe d'art, pour résumer tant de notes précieuses dans un tableau, pour sacrifier la propre satisfaction de ses souvenirs à la vague recherche d'un but général et incertain. Disons le mot, il faut une véritable abnégation de soi-même pour cacher ses études et n'en manifester que le résultat. Mais la difficulté n'est pas là seulement. Elle est ailleurs, elle est partout. Le difficile est, je le répète, d'intéresser notre public européen à des lieux qu'il ignore. Le difficile est de montrer ces lieux pour les faire connaître, et cependant dans l'acception commune aux objets déjà familiers, de dégager aussi le beau du bizarre et l'impression de la mise en scène qui presque toujours est accablante, et de faire admettre les plus périlleuses nouveautés par des moyens d'expression usuels, d'obtenir enfin ce résultat qu'un pays si particulier devienne un tableau sensible, intelligible et vraisemblable, en s'accommodant aux lois du goût, et que l'exception entre dans la règle, sans l'excéder, ni s'y amoindrir. Or, je vous l'ai dit, l'Orient est extraordinaire, et je prends le mot dans son sens grammatical. Il échappe aux conventions, il est hors de toute discipline, il transpose, il intervertit tout. Il renverse les harmonies dont le paysage a vécu depuis des siècles. Bon, je ne parle pas ici d'un Orient fictif, antérieur aux études récentes qu'on a faites sur les lieux mêmes. Je parle de ce pays, poudreux, blanchâtre, un peu cru dès qu'il se colore, un peu morne quand aucune coloration vive ne le réveille, uniforme alors et cachant sous cette apparente unité de ton des décompositions infinies de nuances et de valeurs, rigide de forme, dessiné en largeur, plus souvent qu'en hauteur, très net, sans vapeur, sans atténuation, presque sans atmosphère appréciable et sans distance. Tel est l'Orient que vous et moi nous connaissons, qui nous entoure et que nous voyons. C'est le pays par excellence du grand dans les lignes fuyantes, du clair et de l'immobile, des terrains enflammés sous un ciel bleu, c'est-à-dire plus clair que le ciel, ce qui amène, notez-le bien, à tout moment des tableaux renversés. Pas de centre, car la lumière afflue partout, pas d'ombre mobile, car le ciel est sans nuages. Enfin, jamais que je sache avant nous, personne ne s'est préoccupé de lutter contre ce capital obstacle du soleil, et ne s'est imaginé qu'un début de la peinture pouvait être d'exprimer, avec les pauvres moyens que vous savez, l'excès de la lumière solaire accrue par la diffusion. Je vous signale ici les difficultés de pratique, où il y en a mille autres plus profondes, plus sérieuses et beaucoup plus dignes d'être méditées. Trois hommes, depuis 20 ans, résument à peu près tout ce que la critique moderne a nommé la peinture orientale. Vous connaissez au moins l'un des trois. Son nom a fait trop de bruit en France pour qu'il n'en soit pas arrivé quelque lointain retentissement jusque dans vos déserts. Je ne me permettrai point de les juger, même en tête-à-tête à 400 lieues de Paris. Je vous dirai seulement, pour employer le vocabulaire à la mode, que l'un fait avec l'Orient du paysage, l'autre du paysage et du genre, le troisième du genre et de la grande peinture. Chacun d'eux a vu l'Orient et l'a bien vu, sinon avec une intelligence égale, du moins avec un amour aussi vif, aussi sincère, aussi durable, et l'ensemble de leurs œuvres a été une révélation. Le paysagiste a commencé par visiter les lieux les plus célèbres de la terre et les a décrits, les signant d'un nom de ville, de village ou de mosquée. Les traitant à peu près comme des portraits, il fallait bien qu'il nommât l'original. Son œuvre est l'exquise et parfaite illustration d'un voyage dont il aurait pu lui-même écrire le texte. Car il apportait, en écrivant comme en peignant, la même exactitude de coup d'œil, la même vivacité de style et d'expression. Or, de toute cette œuvre considérable, et dont le souvenir aujourd'hui déjà devient confus, ce qui restera peut-être le plus lumineux, le plus choisi, le plus mémorable, ce sont de petits tableaux sans nom, sans désignation précise, par exemple un crépuscule au bord du Nil, ou bien des pèlerins, pauvres voyageurs à midi dans l'aride atmosphère d'un pays sans eau. Deux notes générales, une impression de mélancolie nocturne, la terreur des chaudes solitudes, voilà peut-être ce qu'il aura laissé, je ne dis pas de plus parfait, car la nette intelligence de l'homme et la main habile du praticien sont visibles dans tous les tableaux signés de lui, mais de plus heureux, pour sa renommée et le plus honorable pour l'art moderne. Le peintre de genre a procédé plus résolument. Dans l'Orient, il a vu les faits, l'opposition nette, aiguë, tranchante, des ombres et de la lumière. Ne pouvant pas atteindre directement le soleil qui brûle toutes les mains qui le cherchent, il a pris un détour fort spirituel, et dans l'impossibilité d'exprimer beaucoup de soleil avec peu d'ombre, il a pensé qu'avec beaucoup d'ombre, il parviendrait à produire un peu de soleil, et il a réussi. Cette abstraction de l'effet, ce thème invariable des oppositions vives, il les a poursuivis partout, dans tous les sujets de figure ou de paysage, violemment, obstinément et avec du succès qui a légitimé ses audaces. Il a beaucoup imaginé, beaucoup rêvé, mais à distance, à travers des partis pris d'esprit, de méthode et de pratique. Il n'est ni vrai ni vraisemblable. Peu nature, permettez-moi ce barbarisme d'atelier. Sa supériorité la plus incontestable vient de ce qu'il a, comme tous les visionnaires, l'esprit rempli de métamorphoses. Il invente encore plus qu'il ne se souvient. Il a gardé de ses séjours en Orient je ne sais quel amour des angles droits, des horizons rectilignes, des intersections brusques dont il a composé, pour ainsi dire, la formule et la géométrie de son art. Chaque chose qu'il produit se reconnaît à ce double caractère. L'intensité de l'effet, la combinaison méthodique des formes, et peut-être, à son insu, le sujet n'est-il qu'un prétexte varié pour appliquer identiquement ses formules. Au fond, Si quelque chose manque à cet art très indépendant, c'est de l'être trop dans un sens et de ne pas l'être assez dans l'autre. En un mot, d'avoir fait d'énormes sacrifices à la lumière comme à l'indispensable raison du beau. Le troisième est monté d'un échelon sur l'escalier presque sans fin du grand art. Et dans l'Orient, il a vu les spectacles humains. Notez bien que je ne dis pas l'homme. Il a vu l'homme habillé, par conséquent, la tournure, le geste, vaguement la physionomie, mais splendidement le costume et la couleur. De la couleur, il a fait à son tour son abstraction. Il a tellement agrandi son rôle, il l'a doué d'une telle importance, il en a tiré des significations si diverses, si hautes, si frappantes et parfois si pathétiques, qu'en nous forçant pour ainsi dire à oublier la forme, il a fait supposer qu'il la méprisait ou l'ignorait, deux erreurs dont il est innocent. En vertu de ce principe que la couleur décomposée par des ombres rigoureuses et des lumières perd son effet de plénitude et sa qualité intense, il a imaginé, même pour ses tableaux de plein air, une sorte de jour élyséen, doux, tempéré, égal, que j'appellerais le clair-obscur des campagnes ouvertes. Il a pris à l'Orient les bleus forts de son ciel, ses ombres blêmes, ses demi-teintes molles. Quelquefois, il a fait tomber sur un parasol ouvert quelque chose comme la pesanteur d'un morne et lourd rayon de soleil. Mais plus souvent, il se plaît dans les demi-clartés froides, la vraie lumière de Véronèse, et il substitue sans scrupule des campagnes vertes aux horizons brûlés. Il prend le paysage comme un point d'appui, une sorte d'accompagnement sourd et profond qui fait valoir, soutient et centuple la sonorité magnifique de ses colorations. Son chef-d'œuvre, dans le genre au moins, est un tableau d'intérieur blond, clair, limpide, et si nettement écrit qu'on le dirait exécuté d'un seul trait, d'une seule haleine. Et ce tableau, par sa perfection, témoigne exactement comment l'homme dont je parle a compris l'Orient. Son amour du costume, ses scrupules pour l'aspect, enfin le peu de souci qu'il a du soleil et de ses effets. On dit de ses œuvres qu'elles sont belles mais imaginaires. On le voudrait plus vrai, plus naïf. Peut-être le voudrait-on plus oriental. N'écoutez jamais ceux qui vous parleront de la sorte. Croyez plutôt que ce qu'il y a de plus beau chez lui, c'est l'élément le plus général. Le paysagiste, par je ne sais quelle prédestination particulière, était né peintre d'Orient. Car on dit qu'il ressemblait lui-même à un arabe. Le peintre de genre a le goût des pays turcs. Il les aime en raison même de leur originalité. Et le peintre d'histoire est un vénitien qui se délecte avec des sujets contemporains analogues pour la couleur aux souvenirs passionnés qu'il a gardés de ses maîtres. Il est donc le plus traditionnel et le moins oriental des trois, et c'est la plus minime des raisons qui me font l'estimer si grand. J'étais au bord de la Seine un jour de printemps avec un paysagiste célèbre qui fut mon maître. Il m'expliquait les changements que l'expérience, l'étude des musées, ses voyages en Italie surtout, avaient apporté dans sa manière de voir les choses et de sentir. Il me disait qu'aujourd'hui, il n'apercevait plus que des résumés là où jadis il était enchanté par des détails, et qu'après avoir cherché le particulier, il cherchait maintenant la forme et l'idée typique. Un berger passa, conduisant sur la berge même de la rivière un long troupeau de moutons qui se profilait avec des mouvements souples sur les eaux blanchies par un ciel gris de la fin d'avril. Le berger avait la besace au dos, le feutre noir, les guêtres de cuir d'un conducteur de troupeau. Deux chiens noirs, très pittoresques de tournure, se traînaient lentement entre ses jambes, car le troupeau marchait en bon ordre. « Savez-vous, me dit mon maître, que c'est une chose très belle à peindre qu'un berger au bord d'un fleuve ?» La scène avait changé de nom, comme le sujet avait changé d'acception. La scène était devenue le fleuve. Qui de nous pourra faire avec l'Orient quelque chose d'assez individuel et à la fois d'assez général pour devenir l'équivalent de cette idée simple du fleuve? Voilà à peu près ce que je disais à Vandel. Tire de ce chaos d'objections, d'aperçus, de notes éparses, la conclusion que tu voudras. Je te rapporte un entretien qui n'est pas un livre de dogme, qui n'est pas même un chapitre de critique. La conclusion personnelle que j'en ai tirée, moi, la voici. Il est probable que j'échouerai dans ce que j'entreprends, ce qui ne prouvera pas que l'entreprise était irréalisable. Il est possible aussi que, par une contradiction trop commune à beaucoup d'esprits, je sois entraîné précisément vers les curiosités que je condamne, que le penchant soit plus fort que les idées et l'instinct plus impérieux que les théories.